Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Dans une lettre adressée mardi à Mgr Baldassare Reina, vice-gérant du diocèse de Rome, à l'occasion du 80e anniversaire du vœu à la Vierge Marie, Salus Populi Romani, le pape François a invité le peuple romain à être partout des bâtisseurs de paix véritables dans un monde déchiré par les conflits et les guerres. Un retour sur la publication du message du pape lundi pour la 110e journée mondiale du migrant et du réfugié qui aura lieu le 29 septembre prochain. Nous écouterons le cardinal Michael Czerny, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, qui est revenu sur certaines idées reçues concernant l'immigration. Nous y reviendrons de l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Quant à l'actualité sociopolitique sur le continent, elle nous conduira au Nigeria, en Afrique du Sud et au Sénégal. Dans la deuxième partie de cette édition, nous accorderons la parole au politologue sénégalais Serigne Bamba Gueye avant de conclure avec la rubrique sur les prises des positions des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Dans une lettre adressée mardi à Mgr Baldassare Reina, vice-gérant du diocèse de Rome, le pape a exprimé sa proximité spirituelle à toute la communauté diocésaine qui célèbre pour la première fois la mémoire liturgique de Sainte Marie Salus Populi Romani, en rappelant également le vœu que le peuple de Rome, avec son pasteur le pape Pie XII, a fait à la Vierge Marie le 4 juin 1944 pour implorer le salut de la ville alors que l'affrontement entre l'armée allemande et les alliés anglo-américain était sur le point de s'y dérouler. 80 ans plus tard, écrit le pape, trop de conflits dans différentes parties du monde sont encore ouverts aujourd'hui, en particulier en Ukraine, en Palestine, en Israël, au Soudan, au Myanmar, où les armes continuent de s'entrechoquer et où le sang humain continue de couler. Sur ce, le Saint-Père souhaite que les initiatives promues pour commémorer le vœu du peuple à la Mère de Dieu puissent raviver chez les Romains la volonté d'être partout des bâtisseurs de paix véritables en relançant la fraternité comme condition essentielle pour recomposer les conflits et les hostilités. Publication lundi du message du pape pour la 110e journée mondiale du migrant et du réfugié qui aura lieu le 29 septembre prochain. Pour présenter ce message, le cardinal Czerny, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, s'est exprimé en la même date devant la presse. Il est revenu sur certaines idées reçues concernant l'immigration.
Il est très important de comprendre ce que veut dire être contraint par la réalité et par l'histoire à fuir. Souvent, il y a une propagande ou une idéologie qui donne l'impression que le migrant, le réfugié, le déplacé fuit pour le plaisir ou pour l'aventure. C'est faux, faux et faux. Et il est regrettable qu'on doive continuer d'insister là-dessus. Il est facile de dire, et on l'entend souvent, que l'immigration est une crise mondiale. C'est faux et stupide, mais cela fait peur. À l'inverse, reconnaître ces personnes comme des frères et sœurs, cela change tout. Un frère ou une sœur, ce n'est pas un problème global.
Les évêques ivoiriens ont clôturé dimanche 2 juin 2024 les travaux de leur 125e assemblée plénière dans le diocèse de Yopougon. Ces assises ont été sanctionnées par un communiqué dans lequel ils invitent les Ivoiriens, principalement la classe politique, à l'approche des élections de 2025, à agir sur tous les leviers qui pourraient garantir des élections justes, transparentes, crédibles, inclusives et paisibles. Les précisions de Marcel Ariston Blé.
Dans ce communiqué lu par Mgr Joseph Akakaku, évêque de Yamoussoukro, les évêques disent ressentir les inquiétudes et les interrogations de la société ivoirienne à l'orée de l'année électorale de 2025.
Nous nous sentons obligés d'interpeller nos concitoyens habitants de la Côte d'Ivoire, plus particulièrement les gouvernants, les partis politiques, les guides religieux et les médias à agir sur tous les leviers qui garantissent des élections justes, transparentes, crédibles, inclusives et paisible.
Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dans ce communiqué également, affirment ne pas rester insensibles selon eux.
À la question de la cherté de la vie, avec la flambée des prix des produits de première nécessité et de l'électricité aussi. Invitons-nous le gouvernement ivoirien à entendre la clameur du peuple qui monte et à mettre tout en œuvre pour trouver une solution durable à cette situation.
Sur le plan de l'Église, les évêques ont procédé à plusieurs nominations de prêtres à la tête des différentes institutions de l'Église dans le pays. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
L'orphelinat Saint-Jean de Deido à Douala au Cameroun a célébré ses 25 ans de création samedi 1er juin. Cette institution administrée par les religieuses de la Congrégation des Sœurs de la Passion a été créée en 2013 par un prêtre de l'archidiocèse de Douala, l'abbé Clément Ndjewel, avec l'approbation du cardinal Christian Toumi, tous deux d'heureuse mémoire. À l'occasion de la célébration de ce jubilé d'argent, une messe d'action de grâce a été présidée par l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Kleda. Plus de détails avec Paul-Valéry Mendogo.
La célébration des 25 ans de l'orphelinat Saint-Jean de Deido a été placée sous le signe de l'avenir matérialisé par les couleurs bleues et jaunes, symbolisant respectivement le sourire éclatant qu'arborait la centaine d'orphelins suivis dans cette institution et la très grande dévotion mariale qui y règne. L'archevêque métropolitain de Douala, Mgr Samuel Kleda, au cours de son homélie, a invité tous les fidèles et âmes de bonne volonté à contribuer à leur éducation et à leur bien-être.
Il ne faudrait pas qu'on se rende compte que quelque chose a manqué dans leur éducation parce qu'ils étaient des orphelins. Ce n'est plus seulement les sœurs, mais nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous apportons ce que nous avons pour faire vivre cet orphelinat.
Sœur Antoinette Ngongui est la responsable de cette structure.
Moi, je suis à l'orphelinat dès la création et j'ai décidé de rendre hommage à Dieu en voyant ces enfants qui sont déjà grands et qui sont des personnes aujourd'hui dans la vie.
L'abbé Eloi Ngambi est le curé de la paroisse Saint-Jean de Deido à Douala.
Il faut avouer d'abord que tenir un orphelinat, c'est une tâche extrêmement ardue. Surtout que dans cet orphelinat, on rencontre les enfants de très bas âge.
50 enfants résident présentement à l'orphelinat Saint-Jean de Deido, tandis qu'une cinquantaine d'autres sont placés et suivis dans des familles d'accueil à travers le Cameroun. Paul-Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
Et faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. Les syndicats nigérians ont entamé mardi des pourparlers avec le gouvernement afin de statuer sur le nouveau salaire minimum nigérian au deuxième jour d'une grève nationale illimitée qui perturbe les vols internes et les bâtiments appartenant à l'État. Ce mouvement mené par les principaux syndicats du Nigeria, le Congrès du travail du Nigeria, LNC, et le Congrès des syndicats, TUC, intervient alors que le pays le plus peuplé d'Afrique doit faire face à une inflation galopante et à une dépréciation de sa monnaie au dollar. Un Sud-Africain de 44 ans a été présenté mardi au tribunal pour avoir poignardé à mort une mère de famille et blessé son fils et son mari en raison des sympathies de la famille pour la cause palestinienne. Grayson Beer est inculpé pour meurtre et tentative de meurtre pour cette attaque survenue dimanche dans une banlieue de Durban, selon l'accusation. Toujours en Afrique du Sud, 12 personnes ont trouvé la mort dans les provinces de la côte Est, ouvertes sur l'océan Indien, dans des inondations provoquées par de fortes précipitations accompagnées de vents violents, ont indiqué les autorités locales lundi soir. La justice sénégalaise a condamné lundi Ba Diakité, un militant politique, et le prêcheur tchèque Ahmed Tidiane Ndao à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles après leurs propos ciblant le premier ministre Ousmane Sonko et ses récentes déclarations sur l'homosexualité, a indiqué un de leurs avocats. Les deux hommes, jugés en flagrant délit par les tribunaux de Dakar le 27 mai, ont en outre été condamnés à payer chacun une amende de 100 000 francs CFA, a indiqué Maître El Hadji Amadou Sall. L'Ukraine intensifie ses efforts diplomatiques en Afrique alors qu'elle continue de lutter contre l'invasion russe. Fin mai dernier, elle a ouvert sa première ambassade en Mauritanie à Nouakchott, après celle ouverte en Côte d'Ivoire, en RDC, au Mozambique ou encore au Botswana. Kiev entend contrer l'influence russe sur le continent avec pour objectif d'ouvrir 20 ambassades. Dr Serine Bamba Gueye, politologue sénégalais, spécialiste en relations internationales, se prononce sur la question.
Le 2 mars 2022, après le déclenchement de ce conflit, 28 pays africains avaient condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'avaient signifié lors de ce vote au Conseil de sécurité. Dans cette foulée, l'Ukraine donc veut profiter de ce momentum pour avoir une place beaucoup plus importante en Afrique, d'autant plus que son rival ou son adversaire, la Russie, est dans une offensive diplomatique, militaire et stratégique en Afrique. Cette offensive, l'Ukraine entend la contrer en Afrique actuellement.
Est-ce que vous pensez qu'il sera évident aujourd'hui pour l'Ukraine de contrer cette influence russe sur le continent africain?
Il sera très difficile pour plusieurs raisons. La raison la plus évidente, c'est que véritablement, le poids que la Russie a en Afrique, l'Ukraine ne l'a pas. Au plan géopolitique, politique, au plan militaire. N'oubliez pas que la plupart des pays africains aujourd'hui ont des relations militaires très fortes avec la Russie, qui leur fournit beaucoup d'armements. Les gains stratégiques que la Russie a engrangés ces dernières années en Centrafrique, au Mali, au Burkina, au Soudan, au Niger aujourd'hui, font que véritablement, du point de vue géostratégique, la Russie est devenue un acteur important en Afrique, alors que l'Ukraine ne pèse pas au plan géostratégique. Un autre élément, c'est que la guerre aujourd'hui qui se mène entre l'Ukraine et la Russie est perçue par plusieurs pays africains comme étant un conflit lointain, qui ne les concerne pas directement. Donc, ce qui fait que isoler la Russie à partir de ce conflit sera très difficile pour l'Ukraine.
Selon certains observateurs, Kiev entend s'appuyer sur la Côte d'Ivoire pour en faire un pivot à partir duquel déployer sa stratégie d'influence. Est-ce vraiment le cas?
Pour pouvoir utiliser la Côte d'Ivoire comme un pays pivot, cela demande plusieurs paramètres, parmi lesquels il faut véritablement qu'il y ait une stratégie commerciale, une stratégie économique bien pensée de la part de l'Ukraine. Or, pour le moment, l'Ukraine n'a pas une stratégie de pénétration des marchés africains, notamment au niveau de l'UEMOA. Je ne vois pas cette stratégie.
Quelles pourraient être les conséquences pour l'Afrique dans ce jeu de stratégie d'intérêt?
Le fait d'entretenir des relations avec la Russie et l'Ukraine n'a pas en fait en soi des conséquences en Afrique. D'autant plus que depuis 2 ans qu'il y a la guerre entre ces deux pays, aussi bien la Russie que l'Ukraine continuent à avoir des relations diplomatiques, commerciales avec l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas voulu s'engager dans la question des sanctions. Le fait que la Russie s'est rapprochée substantiellement des États membres de l'AES constitue certes un bouleversement géopolitique parce que ce positionnement de la Russie au sein des États membres de l'AES s'est fait avec le retrait de la France dans cette région où elle avait une très grande influence. Ce changement géostratégique, évidemment, a des conséquences politiques militaires. Et également, cela aussi remet l'équilibre des forces et des puissances au niveau de la CEDEAO. En ce moment, essayons de voir dans quelle direction cela va aller. L'influence russe, est-ce qu'elle va continuer à s'étendre sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest? Je ne le crois pas. Ou bien est-ce que c'est seulement un moment lié à des bouleversements géostratégiques? Et au terme de ces bouleversements, comment les nouvelles alliances vont se dessiner?
Vous venez de suivre le docteur Serine Bamba Gueye, politologue sénégalais, spécialiste en relations internationales, répondant aux questions de Myriam Sandounou. Refermons cette édition par notre rubrique sur les prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde qui nous est présentée par Jacques Ngol.
Commençons cette rubrique sur la vie des chrétiens dans le monde et prise des positions des évêques par la Chine où les communautés catholiques de tout le pays ont participé aux processions eucharistiques et mariales qui se sont déroulées le dimanche 2 juin en la solennité du Corpus Christi au terme des 3 jours qui ont vu s'achever le mois de mai consacré à Marie et voir aussi s'ouvrir le mois de juin au cours duquel le peuple de Dieu renoue avec sa dévotion traditionnelle au Sacré-Cœur de Jésus. De Pékin à Shanghai, des diocèses de Hebei à ceux de Jiangxing, les multiples célébrations ont commencé par la fête liturgique de la Visitation de Marie le 31 mai. À Xinjiangzhuang, dans la province de Hebei, des milliers de fidèles se sont rassemblés samedi soir à la cathédrale dédiée à Marie Immaculée et ont parcouru les rues autour de l'église avec des bougies allumées en priant le rosaire, tandis que la communauté de la province d'Anhui a commencé le mois dédié au Sacré-Cœur au sanctuaire Notre-Dame de Shandong, qui est aujourd'hui la plus ancienne église de la province construite en 1869. La communauté paroissiale de Zhuxiang dans la province de Jiangxing a, quant à elle, prié pour tous les étudiants qui se préparent aux examens, en particulier ceux qui doivent passer les concours d'entrée à l'université au cours de la célébration solennelle du Corpus Christi. Dans notre communauté catholique de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la visite du pape François en septembre prochain suscite un grand enthousiasme. Son arrivée est aperçue comme un événement de grâce pour toutes les communautés d'un pays vaste et pluriel, aux traits et aux réalités multiples qui reconnaît l'apport humain et spirituel de la foi chrétienne. C'est ce qu'a expliqué le père Victor Roche, missionnaire indien de la Société du Verbe Divin, directeur national des œuvres pontificales missionnaires OPM. Le conflit en Ukraine. L'armée russe masse des troupes dans la région de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. Depuis le 10 mai, elle est de nouveau la cible de bombardements quotidiens et la population renonce avec la peur. De passage à Rome, l'évêque de Kharkiv, Zaporjia, Monseigneur Pavlo Oncharuk, témoigne de la difficulté de la population dans ces circonstances et de sa détermination à ne pas abandonner la ville aux forces russes.
La situation devient très critique et difficile car au début de l'invasion russe, les gens n'ont pas réfléchi longtemps pour savoir s'ils devaient quitter ou non la ville. Beaucoup sont partis simplement parce qu'ils voyaient le danger arriver. Bien sûr, le danger était alors bien plus grand qu'aujourd'hui car les troupes russes se trouvaient déjà sur le périphérique de Kharkiv et la ville risquait d'être encerclée en l'espace de quelques heures. Et puis lorsque l'armée ukrainienne a chassé les Russes de Kharkiv, les gens ont commencé à revenir et la vie a repris son cours. Même ceux qui étaient partis à l'étranger ont eu du mal à s'habituer à une réalité différente. Alors ils sont revenus et ils ont dit « Quoi qu'il se passe, on reste ici ». Et vous devez savoir que lorsqu'une bombe d'une tonne et demie vous tombe dessus, elle laisse un cratère de 8 mètres de profondeur et de 30 mètres de diamètre. Alors de fait, les ruines sont très impressionnantes. La dernière tragédie en date est très violente. C'est un missile qui est tombé samedi dernier sur un grand supermarché dans lequel de nombreuses personnes ont été tuées. Beaucoup d'entre elles ne seront probablement jamais retrouvées car il y a eu un grand incendie et tout a brûlé. À Kharkiv, les gens reçoivent tous les jours ce qu'ils appellent maintenant des douches de choc.
Monseigneur Pavlo Oncharuk, évêque de Kharkiv, Zaporjia, au micro de Svitlana Dushovic, de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Alors que l'administration apostolique d'Estonie s'apprête à célébrer son centenaire cette année, Monseigneur Philippe Jordan, administrateur apostolique, rappelle les défis que ses fidèles ont dû relever pendant plusieurs décennies de régime soviétique et des espoirs que les catholiques nourrissent pour l'avenir de leur Église. Pour le prélat, le jubilé du centenaire offrira à l'Église d'Estonie l'occasion de mettre en lumière la vie et le martyr de Monseigneur Profitlich, dont la cause de canonisation est en cours. L'administrateur apostolique a assuré que cette cause est très importante car il serait le premier saint de l'Église catholique en Estonie. Qu'il soit béatifié ou non, sa cause nous a donné la possibilité d'expliquer ce que sont les saints, en particulier à nos frères et sœurs luthériens qui ne comprennent peut-être pas l'idée catholique d'un saint, a expliqué le prélat.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.